Nous allons maintenant illustrer l'ensemble de la démarche économique par un exemple. L'analyse, par le modèle de commerce international de Ricardo, d'une question, l'intérêt du libre-échange. Première étape, la question. À quoi nous intéressons-nous au libre-échange? Nous nous demandons s'il est ou pas favorable aux pays qui s'y livrent, en ayant défini évidemment ce que veut dire favorable. Pour traiter cette question, nous devons choisir un cadre analytique. La célèbre règle du rasoir d'Occam exige que nous construisions un cadre analytique adapté à notre question, mais le plus simple possible, et qui surtout ne cherche pas à traiter en même temps plusieurs questions. Puisqu'il s'agit d'échanges entre pays, nous allons prendre deux pays, le pays A et le pays B, que nous supposerons de plus avoir exactement la même population pour ne pas compliquer inutilement les choses. Nous considérerons par ailleurs deux biens seulement, le minimum pour qu'il y ait échange. Nous appellerons ces biens le blé et le textile. Ces biens s'échangent sur un marché de troc sans monnaie. Avant l'ouverture des frontières, nous aurons donc dans chaque pays un troc entre les deux biens et le prix d'un bien sera exprimé dans l'autre bien. Par exemple, dans le pays A, nous verrons qu'une unité de blé s'échange contre deux unités de textile, si bien qu'on dira le blé, un blé vaut deux textiles. Nous aurons, en cas d'échange international entre nos deux pays, un prix de cet échange international, éventuellement différent des prix intérieurs de chaque pays. Voici notre cadre analytique. Les acteurs sont deux pays. La coordination entre ces acteurs est un marché d'échange international entre les deux biens. Les institutions, qui sont les États des deux pays, autorisent ou pas l'échange international. On ne peut pas faire plus simple. Mais c'est largement suffisant pour commencer d'analyser sérieusement notre problème. Pour l'instant, le modèle n'est pas spécifié et nous n'allons rien pouvoir en tirer de précis avant de l'avoir spécifié. La spécification du modèle se lit sur le graphique. En abscisse, nous avons les quantités de blé, en ordonnée, les quantités de textile. Ce graphique nous dit deux choses. D'abord, nous voyons que les frontières de production, c'est-à-dire cette droite entre les deux axes qui indique les couples maximum de blé et de textile que chaque pays est capable de produire s'il utilise toute sa force de travail efficacement, ces deux courbes sont différentes. La courbe du pays B est en dessous de celle du pays A. Et de plus, ces deux courbes n'ont pas la même pente. La première différence entre les deux pays est donc que l'un, le pays B, est moins efficace, moins développé, pourrions-nous dire, que le pays A, puisqu'avec la même population, il produit des couples textile-blé toujours inférieurs à ceux qu'est capable de produire le pays A. La deuxième différence est la pente. Nous l'avons dit, des courbes qui, vous le voyez, n'est pas la même. Elle est plus grande dans le pays A, où elle a une valeur de 2, tandis que dans le pays B, elle a une valeur de 1,5. Cela signifie que dans le pays A, si on met toutes ses forces dans la fabrication de textiles, on en produit deux fois plus que de blé. Le pays A est très efficace dans la fabrication du textile, alors que dans le pays B, si on met toutes ses forces dans la fabrication de textiles, on en produira moitié moins que ce qu'on est capable de produire en blé. Donc, le PIB est relativement plus efficace dans la production de blé. On dira donc que A possède un avantage comparatif dans la production de textiles et que B possède un avantage comparatif dans la production de blé, bien que, soulignons-le, B soit moins efficace que A dans les deux productions. Voilà notre modèle spécifié avec deux pays différents. L'un est plus développé que l'autre dans les deux technologies de production, Et il a un avantage comparatif dans le textile, tandis que l'autre a un avantage comparatif dans le blé. Avec ce modèle ainsi spécifié, nous pouvons faire une projection. Et cette projection est la suivante. Supposons que le pays A se spécialise dans le textile dans un premier temps, allant ainsi du point 1, qui est sa situation en autarcie, au point 2. Tandis que le pays B se spécialise en allant du point 1, qui est sa situation en autarcie, vers le point 2. Si l'on en restait là, la population de l'un mourrait de faim, tandis que celle de l'autre mourrait de froid. Heureusement, après s'être spécialisés, les deux pays échangent du textile contre du blé, se rendant chacun ainsi au point 3. Le prix de cet échange international est représenté par la pente des lignes en pointillés rouges sur le schéma. Nous avons supposé que le troc entre les deux pays se faisait à un textile contre un blé et que donc le prix international du blé en textile était de 1, prix situé entre les deux prix intérieurs avant l'échange, qui sont, on l'a dit, de 2 dans le pays A et de 1,5 dans le pays B. On vérifiera facilement que si le prix de l'échange international était égal à l'un ou l'autre des prix intérieurs, celui des pays pour lequel le prix international est égal à son prix intérieur ne gagne absolument rien à l'échange et c'est l'autre pays qui attire à lui tous les gains de l'échange. Dans notre cas, avec un prix international de 1, on voit bien qu'au point 3, les deux pays ont gagné à la spécialisation et à l'échange. Au sens très simple, qu'ils disposent en 3 d'un panier de blé et de textile plus abondant qu'en situation d'autarcie au point 1. Le point 3 est au-delà de la frontière de production qui décrit le maximum de ce qu'ils peuvent produire quand ils sont seuls. Le modèle spécifié permet donc une prédiction. Si chaque pays se spécialise dans la production pour laquelle il a un avantage comparatif, et si l'échange se fait à un prix international intermédiaire entre les deux prix intérieurs, alors la spécialisation plus l'échange sont avantageux pour les deux pays. Remarquons bien que je viens d'introduire une norme de jugement. J'ai dit l'échange est avantageux pour les deux pays. En effet, j'ai choisi la norme. Une politique est meilleure pour un pays si elle lui permet de consommer plus. C'est une norme hautement matérialiste qui néglige toute une série d'autres objectifs possibles. Mais j'assume ce choix, qui est un choix politique, et je l'affiche. Si telle est la norme, l'objectif est maximiser la quantité de biens, c'est-à-dire de couples textiles-blé, à la disposition de la population de chaque pays. Alors, il faut recommander l'ouverture des frontières. Ce sera ma préconisation. Remarquons bien que ce résultat, malgré la simplicité du modèle, n'a absolument rien de trivial. Si le pays A est meilleur que le pays B dans les deux productions, pourquoi donc pourrait-il avoir intérêt à échanger avec un pays moins avancé, car moins efficace dans les deux? Le modèle de Ricardo, à partir d'une question faisant l'objet d'un débat politique très vif en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle, conclut donc qu'il faut, pour le bien-être général mesuré par la consommation et pour le bien-être de la Grande-Bretagne en particulier, ouvrir les frontières. Telle est donc, illustrée par le modèle de Ricardo et son usage, la démarche générale de l'économie.